Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père en son Fils Jésus le ressuscité.
Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin et toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle et dans la communion des églises chrétiennes aujourd'hui puisque nous sommes dans la semaine pour l'unité des chrétiens ensemble. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui voulu inviter Jacques Mérienne, qui est à Saint-Eustache habituellement et qui avec qui nous avions déjà fait connaissance dans d'autres activités et qui a bien voulu ce matin venir prêcher pour nous ici à l'Oratoire du Louvre en bon voisin. Voilà, et dans l'amitié de nos deux paroisses, puisque vous savez peut-être que Agnès a déjà aussi une activité d'études bibliques œcuméniques avec Saint-Eustache, avec le Père Trocherie. Et donc c'est un compagnonnage entre les deux églises qui date déjà de très longtemps. Jacques, bienvenue dans ce lieu, que ici tu te sentes toujours accueilli comme tu l'as été par le passé, qu'aujourd'hui encore tu sois dans cet accueil amical. Nous avons la joie aussi d'annoncer les 800 ans de la paroisse de Saint-Eustache, pas de l'église en effet, mais de la paroisse de Saint-Eustache. Donc le week-end prochain, il y aura beaucoup de festivités organisées à Saint-Eustache pour cet anniversaire extraordinaire, des représentations de théâtre, des conférences, et Agnès ira participer à cet anniversaire et représenter la présence des protestants du quartier dans ce moment important pour la paroisse. Donc, bon anniversaire à Saint-Eustache. Voilà. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte avec le premier spontané qui est au début des psautiers. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Et c'est David Cassan qui nous accompagne ce matin. Merci David.
Nous louons le Seigneur avec un extrait du psaume 116. J'aime le Seigneur car il entend ma voix, mes supplications. Il a tendu son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur est clément et juste. Notre Dieu est compatissant. Le Seigneur garde les naïfs. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Moi, je retourne à mon repos car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu as délivré ma vie de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. J'ai cru quand j'ai parlé, j'étais très affligée. Je disais, tout homme est menteur. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers lui, devant tout son peuple. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses fidèles. S'il te plaît, Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance. J'invoquerai le nom du Seigneur. je m'acquitterai de mes vœux envers lui devant tout le peuple, dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Louez le Seigneur. Et nous vous invitons à continuer cette louange en prenant maintenant le chant du psaume 118, psaume 118 que vous trouverez dans le psautier français. De ce psaume 118, nous chanterons les strophes 1, 3 et 6.
Le Seigneur nous redit ce qu'il désire pour nous. À travers ces mots, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous invite à vous asseoir. Nous nous présentons devant Dieu avec cette prière d'André Dumas. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les gestes et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors, avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Mais dans le trouble de nos âmes, dans le souci de nos jours, la parole de Dieu se fait entendre et à travers Jésus et sa présence, nous sommes appelés. Jésus appelle et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. » Que cette grâce annoncée par le Christ soit aujourd'hui parole de délivrance pour nous. Confessons ensemble notre foi avec ces mots. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à toutes et tous. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Et nous allons maintenant entendre la lecture de l'Évangile ce matin, qui est choisi en fonction de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37, et vous allez reconnaître cette magnifique parabole.
Et voici qu'un docteur de la loi se leva. Il mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et Jésus lui demanda, « Mais dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu cela ?» L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus lui dit, « Mais tu as répondu correctement, fais cela, tu vivras. » Lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Alors Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit, il fut saisi de compassion. Il s'approcha. Il pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge. Il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit. Il prit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. »
Et je vous invite à prendre le cantique 214, les strophes 1, 2 et 3. Et je vous invite à la prière avec un érudit, médecin, philosophe, fort aussi en mathématiques, et qui fait partie de cette communauté de foi qui sont nos aînés dans la foi, la communauté juive. Une prière de Maïmonide, la prière du médecin. Mon Dieu, remplis mon âme d'amour pour l'art et pour toutes les créatures. Quand il parle de l'art, il parle de son art de médecin. N'admets pas que la soif du pain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice de mon art, car les ennemis de la vérité et de l'amour des hommes pourraient facilement m'abuser et m'éloigner du noble devoir de faire du bien à tes enfants. Soutiens la force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir le pauvre et le riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais. Fais que je ne voie que l'homme dans celui qui souffre. Fais que mon esprit reste clair auprès du lit du malade et qu'il ne soit distrait par aucune chose étrangère, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la science lui ont enseigné, car grandes et sublimes sont les recherches scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes les créatures. Fais que mes malades aient confiance en moi et mon art, pour qu'ils suivent mes conseils et mes prescriptions. Éloigne de leur lit les charlatans, l'armée des parents aux mille conseils, et les gardes qui savent toujours tout. Car c'est une engeance dangereuse qui, par vanité, fait échouer les meilleures intentions de l'art et conduit souvent les créatures à la mort. Si les ignorants me blâment et me raillent, fais que l'amour de mon art, comme une cuirasse, me rende invulnérable, pour que je puisse préserver dans le vrai, sans égard au prestige, au renom et à l'âge, de mes ennemis. Prête-moi, mon Dieu, l'indulgence et la patience auprès des malades entêtés et grossiers. Fais que je sois modérée en tout, mais insatiable dans mon amour de la science. Éloigne de moi l'idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes connaissances. Je peux aujourd'hui découvrir dans mon savoir des choses que je ne soupçonnais pas hier, car l'art est grand, mais l'esprit de l'homme pénètre toujours plus avant. Amen.
Dans notre monde actuel, où le chaos semble dominer, où les religions veulent s'éliminer les unes les autres, ce n'est pas notre cas ce matin, où les États et leurs dirigeants ne croient qu'en la guerre pour assurer leur domination, où la vérité est monolithique, impérative, où chacun peut et ne peut être que juge des autres, combattant des autres, de ses idées. On ne cherche plus à dialoguer, mais à effacer l'autre. J'arrête. Oui, c'est dans ce monde que nous voulons témoigner de l'unité des croyants. Dans ce monde où il semble essentiel de s'affirmer non pas avec les autres, mais en opposition, voire contre les autres. Comment le message d'unité peut-il être entendu? Mais s'il est difficile de se faire entendre, cela veut sans doute dire qu'il faut insister, qu'il faut se forcer, que c'est d'autant plus important D'abord pour nous, ne pas nous laisser diviser, découvrir combien nos différences sont un chemin pour nous enrichir mutuellement. Important pour le monde, la société dans laquelle nous vivons, la société que nous habitons ensemble, a besoin de croire en l'unité. Notre unité sera un témoignage qu'une autre approche de l'autre est possible, malgré ses différences, non seulement possible, mais nécessaire. Enfin, c'est important pour chacun d'entre nous, personnellement, comme un appel à dépasser nos attitudes, nos positions, nos convictions, nos certitudes, pour nous ouvrir à la rencontre des autres. C'est une conversion apaisante. L'unité est importante pour nous, communauté, importante pour le monde dans lequel nous vivons, importante pour chacun d'entre nous. Et pour cette semaine de l'unité des chrétiens, nous est parvenu le message des chrétiens du Burkina Faso qui ont choisi le thème. Ils ont choisi cette année pour cette prière la parabole du Samaritain. Je les cite. Les chrétiens sont appelés à agir comme le Christ, en aimant comme le bon Samaritain, en montrant de la pitié, de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur identité religieuse, quelle que soit leur identité ethnique ou sociale. Ce qui doit nous inciter à venir en aide aux autres, ce n'est pas l'identité commune, mais c'est l'amour du prochain. Dans leur message, ces chrétiens du Burkina Faso faisaient donc le même constat que celui que je faisais en commençant. Nous sommes dans un monde qui commence à être un peu chaotique. Toutefois, disent-ils, la vision de l'amour de notre prochain que Jésus nous présente est battue en brèche dans le monde d'aujourd'hui. Guerre dans beaucoup de régions, déséquilibre dans les relations internationales, inégalité causée, imposée par les puissances occidentales ou par d'autres agents extérieurs. Tout cela inhibe notre capacité d'aimer comme le Christ. Et pourtant, c'est en apprenant à s'aimer les uns les autres au-delà des différences que les chrétiens peuvent devenir des prochains, comme le Samaritain de l'Évangile. Voilà, ils nous ont renvoyé à cette parabole souvent citée du bon Samaritain. Elle est très claire. Peut-être que nous la connaissons trop bien et que nous pourrions passer un peu vite. Et à force, nous risquons de n'en retenir que la leçon moralisante, la pitié, la compassion, le service du prochain. Tout cela est vrai, essentiel. Le prochain est le frère en détresse. Nous avons à les prendre en charge avec générosité, ce que d'ailleurs déjà, nos communautés font le plus souvent avec ce qu'elles ont comme moyen. C'est l'essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut encore relire cette parabole pour aller peut-être plus profond. Revenons à cette question initiale que le docteur de la loi pose à Jésus. Bien sûr, pour le coincer, mais Jésus retourne la question, il en fait une vraie question. Qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Je n'aime pas ce mot « prochain ». Il est de ces mots qui propre à notre jargon chrétien, on ne l'utilise que entre chrétiens, un jargon spirituel, théologique. J'ai constaté en lisant beaucoup de traductions des évangiles que les traducteurs sont gênés par ce mot, ils le traduisent chaque fois différemment, comme s'il n'existait pas un mot à nous pour désigner cette réalité ou ce concept, si ce n'est pas une réalité. On pourrait se demander, non pas c'est qui ce prochain, mais c'est quoi ? Bien, la réponse, nous la connaissons au fond de notre cœur, c'est un homme comme moi, mon prochain. C'est quelqu'un qui a la même humanité que moi. Qu'il a la même humanité suffit que je m'intéresse à lui et que je rentre en relation. Je n'ai pas besoin d'attributs supplémentaires. C'est l'un des sens profonds de cette parabole de Luc. Le légiste voit un homme blessé, un homme impur, donc. Alors il ne voit pas l'homme. Le prêtre, il voit un hérétique qui ne pense pas dans le bon sens. Alors il ne voit pas l'homme. Le samaritain, lui, voit tout simplement un homme comme lui. À quelques minutes près, ça aurait pu être lui blessé sur le bord du chemin. Enfermé dans son attitude, sa soumission à la loi, le légiste ne voit pas l'humanité de l'autre. Enfermé dans les certitudes d'une foi bien documentée, le prêtre ne voit pas l'humanité de l'autre. Ils sont incapables. Et si nous-mêmes, nous sommes incapables de voir en l'autre son humanité, nous ne faisons que nier la nôtre, car c'est notre propre humanité qui nous fait entrer en contact avec l'humanité de l'autre. Alors nous nions le mystère que nous sommes pour nous-mêmes. Car être un homme, nous le sommes, mais nous ne savons pas vraiment complètement ce que c'est. Le mystère d'exister. Comme ça, dans les limites de l'espace, dans les limites du temps, sans savoir vraiment ce qu'on fait là. On se donne des missions, on en reçoit, mais au fond, pourquoi ? Certes, Dieu nous a mis là, mais cela risque d'être un peu abstrait. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu n'est pas très bavard, il est souvent silencieux. Par contre, souffrir avec l'humanité laborieuse, l'humanité blessée, communier à l'aspiration universelle qui la traverse vers plus de paix, plus de lumière. Ça, ce n'est pas abstrait. Le Samaritain ne cherche pas à comprendre et à juger qui est qui. Il décide simplement comment réagir. Avoir reconnu l'humanité de l'autre blessé, un autre homme comme lui a déclenché en lui un réflexe d'amour. Accepter de n'être que lui-même un homme simple, ouvert à la souffrance d'un autre homme, c'est finalement accueillir le meilleur de lui-même. Habité par la compassion, il se trouve dans cette situation qui donne à tout homme de devenir un homme, encore plus un homme, quand il laisse l'amour le guider. Voilà, je crois, la profondeur de cette parabole, méditer cette parabole du bon samaritain nous fait contempler, nous fait investir l'inexplicable croissance de l'homme à l'intérieur de l'homme. Contempler cette humanité qui devient ce que le samaritain devient. Contempler cette humanité qui ne cesse de renaître à cause de toutes les défaites, de toutes les morts que l'amour nous fait surmonter. S'émerveiller d'être encore vivant dans ce monde que je décrivais en chute libre. Un monde contemporain. Aujourd'hui, tout ce qui progresse, tout ce qui donne du temps d'être en chemin nous permet de grandir, d'être créateur d'infini, créateur d'éternité. Et c'est là que nous retrouvons l'unité. Croire en l'homme, c'est l'espérance que l'accomplissement de l'homme sera la révélation de Dieu. Croire en l'homme, croire en son humanité, c'est vouloir que vienne le temps où il sera enfin possible en Dieu de nous aimer nous-mêmes et d'aimer Dieu du même amour. C'est la vision de l'un, où l'homme et Dieu ne font plus qu'un, où les hommes en Dieu ne sont plus qu'un. Le Samaritain de la parabole, nous l'avons vu, a rencontré un homme en danger, et c'est en allant plus loin, lui-même, dans sa propre humanité, qu'il va le sauver. Et que cette action fraternelle leur révèle, nous révèle, leur unité à lui, à l'autre, en Dieu. Luc prolonge d'ailleurs cette découverte dans un autre passage de son évangile que j'aime bien mettre en parallèle. Un autre chemin parcouru par des disciples qui pleurent un blessé, c'est le chemin d'Emmaüs. Ce n'est pas eux qui trouvent le blessé sur le bord du chemin, c'est le blessé lui-même qui va les rejoindre sur la route et qui leur explique jusqu'où va les conduire le chemin qu'ils sont en train de parcourir sans le savoir, jusqu'à la vision de l'un, où l'homme et Dieu ne sont plus qu'un, où les hommes en Dieu ne sont plus qu'un. Que l'unité de nos communautés soit ce témoignage, tel que nous pouvons la construire, la faire vivre. L'unité est belle, elle est vaste, elle dit tout ce qui nous habite et que nous ne saurions définir parce que cela reste en grande partie un mystère. Alors, il ne faut pas vouloir le décrire, il faut vouloir le vivre. Elle dit notre communion avec toutes les femmes, tous les hommes de notre humanité qui tentent de rejoindre simplement la demeure de Dieu parmi les hommes.
Je vous invite à prendre le cantique 338, les strophes 1 et 2 dans les louanges et prières. Voilà, nous allons, merci David, nous allons partager quelques annonces et c'est Denis au Conseil presbytéral qui va nous partager ces annonces pour les jours à venir.
Bonjour chers amis de la paroisse, voici les annonces, il y en aura beaucoup pour cette semaine. Tout d'abord, à l'issue du culte, nous vous invitons à un verre de l'amitié. Et puis, il y aura aussi, je crois, les scouts qui auront une annonce à vous faire. Cet après-midi, un piano, un accordéon, des chanteurs et le chœur Elisabeth Brasseur interpréteront la petite messe solennelle de Rossini, donc à 16h ici même. Les billets peuvent être achetés sur le site internet via notre site internet ou sur place. Demain, à la maison presbytérale, à 10h, c'est cours de peinture. Vous êtes les bienvenus. Le soir, à 19h, ce sera cours de grec biblique pour les débutants, à la maison presbytérale aussi. Après-demain, mardi, à 18h, c'est cours de grec, cette fois-ci pour les confirmés. Ce sera en distanciel. Et à 19h, accueil à la salle Mono, la grande salle de la maison presbytérale, au deuxième étage. Ce sera Théophile, ce sera le premier Théophile de l'année. Et donc vous êtes tous invités aussi à écouter le professeur Clairaut et la pasteur Béatrice Clairaut-Mazir à nous parler de la règle d'or. La règle d'or, est-ce une règle ? La règle d'or, c'est... Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse, ou dit autrement, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, dont a parlé tout à l'heure le père Jacques Mérienne, et nous remercions le père Jacques Mérienne pour cette prédication qui nous a permis de nous unir. Jeudi, l'Esprit soufflera aussi ici, cette fois, dans ce cœur, puisque la pasteur Agnès Adeline Schaeffer vous accueillera pour la pause spirituelle. C'est à 12h30, ça dure une heure, et c'est pour les personnes qui travaillent et qui ont juste un peu de temps entre midi et demi et une heure et demie, ou tous ceux qui sont invités. Et c'est un moment de partage biblique et de prière. Samedi matin, à 10h, ce sera le deuxième brunch libéral de l'année. Donc vous êtes invité à manger un délicieux brunch préparé par des bénévoles merveilleux et aussi par la pasteur Cléro Mazir, qui discutera avec la pasteur Emeline Daudet, qui vient de Montpellier exprès, sur le thème « Le libéralisme et l'Église ». Dimanche, le culte sera présidé par la pasteur Béatrice Cléro Mazir. Puis, à 13h15, ce sera parole de vie. Donc, c'est parole d'amour. C'est la même chose, peut-être, peut-on dire. À 13h15, donc, avec les deux pasteurs. Et cette fois-ci, le thème sera sur l'enfance, sur l'engagement et la communion. Et en fait, vous venez, si vous voulez venir aussi, vous êtes déjà les bienvenus après le culte à venir avec un sandwich ou quelque chose à manger dès midi et demi. En fait, on peut partager un repas, toujours en salle mono, donc au deuxième étage de la maison presbytérale. Et ça permet de déjeuner ensemble et puis ensuite de discuter. Et c'est en général très animé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et à présent, je passe la parole à nos scouts.
Alors, ce sont des loups qui sont aujourd'hui avec nous.
Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Pierre-Louis de la patrouille des loups de la troupe de l'oratoire. Donc, c'est pour vous dire qu'on sera dehors avec des gâteaux et vous pouvez nous acheter ces gâteaux et ça nous aide pour le camp et ça nous permet de racheter du matériel et également de faire des sorties pendant le camp. Donc ça serait vraiment très gentil de pouvoir nous aider. Et merci beaucoup pour ceux qui nous aideront.
Merci beaucoup et bonne suite à tous vos projets. Voilà, je vous invite maintenant à un temps de collecte. Donnez le cœur joyeux car ce que nous recevons dans nos vies est signe de la présence de Dieu pour nous. N'oublions jamais de partager nos biens afin que d'autres puissent vivre comme nous le vivons ici, ces moments bénis d'unité, de réflexion, de prière, de louange. Merci. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour ce monde plein de dissensions et où l'unité est souvent difficile à reconnaître. Permets que nous soyons capables de voir là où l'effort est fait de retrouver l'autre, de le comprendre, de rester en lien amical et fraternel. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation du « à quoi bon ?». Donne-nous la possibilité toujours de travailler à cette rencontre fructueuse entre les uns et les autres, là où nous sommes placés pour faire vivre cet amour fraternel dont tu nous as laissé la trace dans notre foi. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont à travers le monde artisans de paix, qui essuient sans cesse des refus, des échecs, et qui ont bien du mal parfois à ne pas se décourager dans leurs tâches. Permet que nous soyons de ceux qui encouragent cet effort. Garde-nous, Éternel, du cynisme qui vise à dire que tout cela ne sert à rien. Éternel, nous te remettons nos propres églises, nos communautés, nos lieux institutionnels, qui ont parfois un souci un peu trop grand d'exister, qui annulent bien souvent le souci de servir. Permet que nous soyons capables d'être serviteurs d'une parole qui ne nous appartient pas, et que ta parole, Seigneur, traverse nos façons de faire, nos façons de dire et viennent rejoindre celles et ceux qui la cherchent, qui en ont besoin dans leur vie. Permet que cette parole de vie ne nous appartienne jamais en propre, mais qu'elle soit toujours le trésor à partager, reçu, mais jamais enfermé. Reçu, mais jamais compris définitivement, reçu, mais jamais notre possession. Nous ne sommes pas propriétaires de ta parole, Éternel. Tu nous la laisses au cœur, mais c'est pour que nous puissions la partager et en vivre. Éternel, nous te remettons toutes les églises qui prennent le parti de confondre les règnes. Garde-les de se substituer au pouvoir temporel et d'attiser les haines et les guerres. Nous te demandons de nous garder de cette tentation aussi et que nous puissions toujours prendre la distance nécessaire avec les faits qui animent notre monde pour que nous puissions assumer la tâche que tu nous as donnée d'être des demeures où les hommes et les femmes de notre temps puissent venir déposer leur fardeau sans les revivre à nouveau. Nous te remettons notre conscience, Seigneur, permet qu'elle soit habitée de ta volonté et que nous puissions t'y reconnaître. Je vais inviter Jacques et Agnès à venir me rejoindre pour dire ensemble, en signe d'unité, entre les hommes et les femmes de bonne volonté dans toutes les églises chrétiennes qui veulent servir la parole de Dieu, pour que nous puissions dire ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, cette halte se termine et nous avons eu le bonheur d'accueillir dans ce lieu notre frère et grâce à lui de faire place à l'amitié avec sa communauté. Merci Jacques pour la parole que tu as partagée avec nous. Merci pour le message que tu nous as redit sur cet amour du prochain et cette difficulté à reconnaître ce qu'est vraiment un prochain pour nous. Frères et sœurs, allez, et quand vous croiserez vous aussi la blessure des hommes sur votre route, ne détournez pas votre regard de votre frère ou de votre sœur. Ils sont votre propre chair, dit la Bible. Souvenons-nous de cette humanité partagée et qu'elle transcende toutes nos façons de dire notre foi. Que cet humanisme-là soit plus grand que toutes nos dissensions, que toutes nos difficultés à dire l'indicible de Dieu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde dans son unité. Amen.